consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Portrait du père en première page. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture d'Alaric Ranc, avec la participation de Stéphane Padovani et Véronique Bessière.
Mon père. Mon père. C'est un peu comme le mythe grec. Vous connaissez ? Icare. Il s'est tenu trop près du soleil et... Mais bon, il se relève à présent. Assez rapidement d'ailleurs. Ça va bien mieux qu'avant. Avant... En plus, il n'y est pour rien, vous savez. Dans tout ce qui lui est arrivé. Personne n'y est pour rien, je crois. Ça marche comme ça. C'est ça le plus terrible. Il y a des gens à qui on prête bien plus qu'ils ne peuvent porter et bien trop qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et les prêteurs ne reconnaissent jamais leur tort. Parce qu'au fond, personne n'est responsable. Tenez, tout est là. Tout ce qu'il a écrit. Ça en fait des pages, hein. Il est au boulot, là. Vous lui dites pas que je vous ai montré tout ça, hein. Vous savez, on a toujours vécu ici. Depuis le XVIIe siècle. Ma famille vient de là. Mes aïeux se sont battus contre la présence germanique sur des générations. Je ne compte plus les morts pour faits de guerre ou de résistance. J'ai un arrière-grand-oncle qui a joué au Racing Club de France dès que l'équipe s'est montée. Il a appris à jouer au foot juste pour ça. Intégrer une équipe portant le mot « France ». C'était en 1919. Aujourd'hui, le club s'appelle Racing Club de Strasbourg. Mon père les encourage toujours. Parfois, il va au stade. Mais de mémoire dans ma famille... Personne n'a jamais écrit. Dans Strasbourg, il y a le mot Strass. C'est ce qu'il m'a dit quelques jours après être revenu. Les Strass, ça brille, ça clinque, ça attire. Tout le contraire de mon père. Lui, il ne rêvait que d'anonymat. Quand il sortait ses feuilles et son stylo, il n'écrivait jamais que pour lui. Des nouvelles, des romans, quelques poèmes. Il remisait dans des chemises. Souvent, on le sollicitait. Il tentait de garder secret cette manie d'écrire, mais c'est presque impossible à garder un truc comme ça. Des amis, la famille le questionnait, on voulait l'entendre. Qu'il lise, quoi. Mais toujours il refusait. C'était son jardin de curé à lui. Même moi, même quand il était en Lozère, je n'ai jamais ouvert ses classeurs. Depuis qu'il est revenu, il n'écrit plus. Il est brocanteur, mon père. Oh, pas un gros, hein. Un petit revendeur qui vide les maisons des gens qui nous ressemblent et dont il revend les biens, aux puces. Puis, un jour, il est tombé sur un vase chinois. Il ne savait pas trop quoi en penser, alors il a envoyé une lettre à un expert. Le type lui a répondu qu'il devait voir l'objet pour se prononcer. Mon père a emballé le vase et il a pris le train pour Paris. Le plus important, dans ce voyage, vois-tu, c'est que j'aurai quelques heures pour moi. Pour écrire, m'a-t-il confié sur le quai de la gare. Le vase, c'était secondaire. À peine installé, il a sorti ses feuilles et s'est mis à gratter. Puis il est parti déjeuner au wagon-bar et, quand il est revenu, le type du siège d'à côté lisait sa prose. Je vous laisse imaginer la colère de mon père. Mais comment, monsieur, vous permettez de lire mes papiers ? C'est de la violation de... Vous voyez le truc. Le type l'a interrompu en lui disant qu'il était éditeur et que, si ce qu'il lisait là était aussi bon que le reste, il pourrait l'éditer. Vous imaginez la tête de mon daron ? Dans la famille, c'est à la dure. On demande rien, on réclame rien, on bosse pour avoir ce qu'on veut et même si on se soutient, on doit compter avant tout sur soi. Il a remballé ses feuillets et il a changé de wagon. Lors du trajet retour, En ouvrant sa pochette, il a trouvé un petit mot de l'éditeur, accompagné de sa carte. « Contactez-moi. Votre texte est bon. Il mérite un livre. » Signé Bernard Monet-Champfort. En arrivant à la maison, il était décontenancé. Non par le fait que son vase ne valait finalement pas grand-chose, mais par l'idée même qu'on puisse le lire un jour. Mon père est quelqu'un de très... tranché. Quand il dit non, c'est pas la peine d'y revenir. Eh bien là, je le voyais hésiter. Son regard passait de notre modeste maison au manuscrit qu'il tenait entre ses mains et qui était achevé. Ma mère le persuada de l'envoyer. Bah, comme ça, tu sauras. Et même s'il en veut pas, qu'est-ce que tu risques? Ma mère m'avoua plus tard qu'elle était persuadée que tout ça n'irait pas très loin. Qui pourrait bien s'intéresser à la prose de Jean-Michel? Jean-Mi, comme ma mère l'appelle parfois. Si on avait su. Mon père hésita encore, puis se décida finalement à envoyer le texte. Alors on attendit. 2 mois plus tard, une lettre lui parvint, accompagnée d'un contrat. Monet-Champfort renvoyait aussi le manuscrit, lui demandant de corriger quelques tournures, de développer des paragraphes. Il trouvait le titre excellent. Il le ferait venir sous peu à Paris. À la lecture de la lettre, mon père fut flatté. Et 6 mois plus tard, en silence, est sorti en librairie. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Oh, quelques larmes seulement. Quand il a ouvert le colis contenant les 2 exemplaires que l'éditeur lui offrait, il en a posé un à côté de la photo de mariage de ses parents, sur le buffet, bien calé sur un petit chevalet. Et puis il a rangé l'autre dans ses bibliothèques. Jean-Mi est un bon lecteur. Il a des goûts éclectiques. Parfois, il me tend un roman en me disant « Tiens, lis ça ». Toujours, je lui demande pourquoi je devrais lire ce livre plutôt qu'un autre. Et toujours, il me répond d'un signe de la main qu'on pourrait traduire par « T'occupe, c'est bon ». Et si j'insiste, il me lance sa phrase magique « Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que tu le lises ». Passé l'effervescence des premières semaines où la famille et les amis achetèrent le livre, plus par curiosité que dans l'intention de le lire d'ailleurs, l'excitation retomba. Mon père était accaparé par son travail, et même s'il en parlait parfois, au début surtout, à sa clientèle fidèle, il en vint presque à l'oublier. Et c'est 4 mois plus tard que son éditeur lui a téléphoné. Il était enthousiaste. En silence, venait d'entrer dans le top 10 des meilleures ventes.
« Où ça ? En Alsace ?»
a demandé mon père.
« Mais non, farceur ! Au National ! C'est un sacré coup qu'on a fait là, hein. Le bouche à oreille a marché à fond. Le magazine littéraire n'arrête pas d'appeler. Tu passes dans 15 jours à la grande librairie et Libé veut faire ton portrait. Faut que tu viennes sur Paris, là. J'ai déjà tout réservé. »
On était abasourdis. Mon père aussi, qui, en homme terre à terre, avait du mal à laisser là son boulot pour jouer les vedettes dans la capitale. Les feux de la rampe, c'est pas le genre de la famille. Il faillit refuser, mais il avait signé un contrat. Ma mère l'a poussé aussi, qui voyait le côté pratique. Les traites de la maison, quelques vacances sur la côte, et puis mon frère qui voulait faire des études. À la maison, on n'a pas la télé, et jusqu'à ce coup de fil, mon père n'avait jamais acheté le magazine littéraire. Je vous ai dit qu'il a vécu en Lozère? Il ne nous a pas quittés pendant le temps où il était là-bas. Je veux dire, mes parents sont toujours ensemble. Mais il a répondu à ce besoin impérieux de fuir. En Lozère, il louait une petite maison sans confort au fond d'une campagne, en zone blanche, coupée du monde. Il nous appelait régulièrement depuis le téléphone public de la poste. C'est peut-être le dernier en France. Là-bas, personne ne savait qui il était. Quand il nous appelait, c'était pour décrire ses journées. Un peu de pêche, pas mal de marches dans la forêt, coupe du bois aussi car ça caillait dans la maison, quelques courses au village. C'est d'ailleurs en descendant au bourg qu'il a vu qu'une brocanteuse venait de s'installer. Ils ont sympathisé, et il lui a offert ses conseils. Il faisait le vide, il refaisait le plein. Une chose est sûre, depuis qu'il est rentré, il n'a plus besoin de travailler, et ça, c'est presque une honte pour lui. Thank you. Bref, quand il a débarqué chez Monet Champfort, avec ses souliers cirés et sa barbe faite, on l'a accueilli avec des révérences. C'était le type qui, à lui seul, allait assurer 3 mois de salaire chargé et payer les dettes de la maison, mais ça, on l'a su que plus tard. On le voulait partout. Son éditeur lui avait fait un emploi du temps de candidat en campagne électorale. Radio, télé, journaux, dédicaces en librairie, même la presse étrangère s'y mettait. Un journal espagnol parlait de lui en des termes louangeurs. On lui avait collé une interprète dont le bruit des talons lui filait des maux de tête. Des journalistes allemands, anglais, italiens aussi, japonais. Tous voulaient voir le phénomène littéraire à qui on prédisait un avenir doré. On parla de lui pour le Renaudot. Pivot n'en pouvait plus de s'extasier. Déjà, on envisageait des traductions pour les pays étrangers. Il fit des photos en pagaille avec des types qu'il ne connaissait pas. Dès ce premier jour, les ors de Paris ont commencé à le dévorer. « Faut serrer les mains des gens qui comptent », lui répétait son éditeur. « Qui compte sur qui ?» répondait mon père. « Sur moi ?» Sur l'une de ces photos, j'ai reconnu Beck Bédé, l'écrivain mondain. Monet Champfort avait bien compris que, malgré le fait que mon père soit un bon lecteur, ses connaissances en littérature étaient ténues. Il a quitté l'école à 16 ans, mon père. Or, fallait donner le change. Chaque matin, il le briefait, lui disant de citer Proust et Duras avec tel journaliste, Le Clésio et Tolstoï avec tel autre. À celui-là, le petit péteux comme je le surnomme, dis-lui que tu es en train de lire sa bio d'Hemingway et que tu la trouves formidable. J'ai jamais lu Hemingway. Et t'en fais pas, lui non plus. Il en aura un bon papier. Mon père s'étonna de tous ces rites grandiloquents, de ces tics de langage, ces passages obligés, ces airs empruntés. Quand il demanda l'autorisation de citer un poète alsacien de ses amis, on lui répondit par un sourire. Tout était calibré pour le succès. Fallait pas déroger. 8 jours après son arrivée à Paris, alors qu'il courait les salons, il croisa Welbeck, qui qualifia en silence de chewing-gum acnéique ramassé sur le trottoir de la Roche-sur-Yon. Les ventes bondirent de 20%. Tous les soirs, il dînait en ville, dans un tourbillon assommant, ne retenant pas le 10e des visages qu'il croisait, oubliant les noms, buvant trop, mangeant des choses inconnues en prenant l'air du type qui ne connaît que cela, alors qu'au final, il en ignorait tout. La moue de certains lui fit comprendre qu'un provincial dans son genre, un roturier, était légitime dans ces lieux. Ses chemises de bûcheron passaient mal. De tout ça, de tout ce cirque, je garde le souvenir de mes mains moites, me confia-t-il, quelques jours après être rentré. Pour assister à ce désastre, car c'est le seul qualificatif que j'ai trouvé, on acheta une télé. À chaque apparition de mon père, on le voyait se décomposer. Je tentais de rassurer ma mère en lui parlant de la qualité de l'écran. C'était une télé premier prix. Elle fit semblant de me croire. Monet Champfort refusait qu'il rentre à Strasbourg. Il lui trouva une chambre dans l'hôtel où Fitzgerald avait eu ses quartiers. Parfois, des admirateurs l'attendaient au matin. Il fallait surfer sur la vague et provoquer le buzz. On le vit au Flore et au Domago. Passage obligé de celui qui veut se faire voir. On prit des clichés de lui sur le quai des bouquinistes, tenant un livre à la main. Quand il le reposa, il se rendit compte que le bouquin parlait de l'élevage des chevaux de course. À la brasserie Lip, Monet Champfort lui demanda de feindre une engueulade avec un auteur en vue. Le jeune homme était de mèche et appartenait à la même maison. Encore une histoire de poulain. Un photographe qui passait heureusement par là bombarda avec son appareil et... La photo fit un bruit assourdissant dans Saint-Germain-des-Prés. Mon père n'est décidément pas doué pour la comédie. Je ne sais pas non plus si c'est un bon auteur, vu que je ne lirai jamais son livre. Aux Tuileries, un jour de soleil, il dut supporter la présence d'une maquilleuse. « Vous accrochez la lumière !» lui dit-elle. « Vous décrochez les étoiles !» lui chuchota un inconnu qui demanda une dédicace. Mon père était en train de décrocher, oui. Effectivement. Tenez, je vais vous faire écouter. C'est sa dernière interview. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y en aura d'autres, Il l'a faite sur Arte, le soir précédant sa disparition. Cela avait eu bon goût d'attendre que le soufflet médiatique retombe un peu avant de l'inviter.
Bonsoir Jean-Michel Hoth.
Bonjour.
Vous êtes la sensation de cette rentrée littéraire. Avec un premier roman qui a dépassé les 100 000 exemplaires, avant qu'on ne parle de lui justement, je serais tentée de vous demander comment vous allez. Je veux dire, comment vivez-vous toute cette agitation médiatique autour de ce texte ?
Vous croyez vraiment que ça en vaut la peine ? Je veux dire, vous, madame, vous connaissez bien la littérature, hein ? Moi, pas. Alors, je peux vous poser une question ? Pourquoi tout ce bruit autour d'un roman qui parle du silence ? Je ne suis qu'un brocanteur qui a commencé ce texte en écrivant dans mon camion, un jour de pluie, alors que j'attendais un client. Et je l'ai achevé dans un train où quelqu'un me l'a volé. Pourriez m'expliquer le rapport entre tout ça, hein, tout ce Barnum et la qualité du texte ? Non mais je ne mérite pas ça quand même. Et regardez, j'ai là... C'est le seul livre que j'ai eu le temps de lire depuis que je suis ici. C'est un libraire qui me l'a recommandé. Ça s'appelle « Du temps qu'on existait ». C'est formidable. Bien mieux, bien plus. Enfin, ça apporte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de lui, de ce roman-là, qu'il faut parler. Mais on n'a rien dit sur lui. Pourquoi personne n'a-t-il pas écrit que « En silence » ne méritait pas ça. Enfin, dans 2 ans, tout le monde l'aura oublié. Hein. C'est tant mieux. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'être à un dîner de cons. Hein ? D'accord ? On m'invite partout. Tout le monde veut cirer mes pompes. J'ai l'impression d'être Louis XIV. J'ai pas de château. J'en veux pas. L'autre jour, une femme a insisté pour se tenir à mon bras. Enfin, vous m'avez regardé. Et tous ces gens, j'y comprends plus rien. Si j'avais su. C'est comme une machine, un truc qui vous broie, sans aucun respect, ouais, comme un citron. Allez, silence.
C'est dingue, hein ? De balancer ça sur une chaîne nationale et à une heure de grande écoute. Je suis très fier de lui. Je me souviens de ma mère qui a dit alors « Et bim ! Dans ta gueule ! Bien joué Jean-Mi !» Il n'avait pas fini de parler que déjà Monet Champfort nous appelait. Il était furieux. On le comprend. Il répétait que le portable de mon père sonnait dans le vide et qu'il avait été obligé d'interrompre un dîner en ville devant la catastrophe qui se jouait. Il menaçait de dénoncer son contrat, de porter l'affaire devant les tribunaux et même de casser la gueule à Jean-Mi. Je lui ai répondu qu'il pouvait toujours essayer. Le lendemain, le tout Paris ne parlait que de ça. Même France 2 a ouvert son journal là-dessus. Ça a enflammé les réseaux sociaux, alors que tout le monde essayait de joindre mon père qui avait pris le dernier train pour la Lozère. Portable éteint. Là, certains se sont lâchés. Les mêmes qui avaient encensé le livre le descendaient en flammes, accusant mon père de cracher dans la soupe, de mépriser les valeurs du marché qui le nourrit pourtant, et grassement, comme ils ont dit dans le Figaro. Et du Renaudot, plus personne ne parlait. Je l'avais prédit, commenta Welbeck, sans qu'on sache précisément de quelle prédiction il s'agissait. D'autres ont pris sa défense, notamment un groupe de petits éditeurs et quelques journalistes aussi, les plus discrets, qui parlèrent de son acte comme de l'épingle qui allait faire éclater la bulle de la surproduction de livres et remettre la littérature à l'endroit. Ils employèrent les mots « courage » et « honnêteté » pour qualifier l'acte de mon père. Leur critique dans silence était mesurée. Un bon texte, assurément. Une écriture attachante et déroutante aussi. C'est drôle, parfois. Dans l'UMA, un journaliste parlait du camarade Jean-Michel Hoth en des termes qui firent bondir mon père. Vous imaginez ? Lui qui vote à droite ? Un homme qui sait d'où il vient et qui n'hésite pas à dénoncer la folie du capitalisme qui rémunère 10 fois trop les gens de peu de talent, c'est un vrai mérite de reconnaître qu'on ne mérite pas son salaire. Avant de conclure que le texte était bourgeois dans sa forme et que l'auteur aurait dû interroger le fond plus avant. Pour fuir toute cette agitation qui venait jusque sous nos fenêtres, mon frère, ma mère et moi sommes allés habiter quelques jours chez une tante, en Lorraine. Histoire que ça se calme un peu. Et puis on est revenu. Et rapidement, le monde est ainsi fait. On est passé à autre chose. On savait mon père apaisé d'avoir dit enfin ce qui le détruisait depuis le début de cette affaire. Le truc le plus fou, c'est que son roman, dont les ventes se poursuivaient sur un rythme moins élevé lorsqu'il est passé sur Arte, eh bien, son roman s'est mis à se vendre comme des petits pains. Tout le monde voulait acheter le livre de celui qui reconnaissait que n'importe qui aurait pu faire la même chose. Que des textes comme ça, on en trouvait plein les boîtes à lettres des éditeurs. Les librairies étaient constamment en rupture de stock. Des gens en achetaient 2-3 exemplaires pour Noël. Sans doute que mon père a créé des vocations. Et que certains doivent avoir son livre en double. Il y a eu des traductions dans une 20aine de pays, dont les ventes ont explosé elles aussi. Ce n'était d'ailleurs plus du texte dont il était question, mais de ce coup d'éclat télévisuel et le fait que l'auteur ait disparu. Sur la couverture, Monet Champfort avait fait poser un bandeau. Déjà 200 000 exemplaires vendus. En Belgique, le bandeau disait « L'écrivain qui dénonce le système ». Et le texte dans tout ça ? Disparu. Inaudible dans tout le tintamarre. Vous ne l'avez pas lu, c'est ça ? En silence. C'est bien. Si vous croisez mon père, dites-le lui. Ça lui fera plaisir. Quand je vous dis qu'on lui a prêté bien plus, bien trop. Mieux qu'un auteur mort et inconnu dont on découvre soudainement l'immensité de l'œuvre, l'absence et le silence ont provoqué des conséquences inattendues. Quelque temps plus tard, Monet Champfort s'est fendu d'une lettre ouverte où il a expliqué que mon père était épuisé nerveusement, qu'il fallait excuser son passage à vide et que les ventes confirmaient bien que le livre était bon. J'ai appris par l'ami d'un ami que, chez Albin Michel, on fulminait. Vous pensez, ils ont dû reporter la sortie du dernier Amélie Nothomb. En septembre, nous sommes partis tous les trois le retrouver dans sa maison en Lozère. Nous fûmes rassurés de le voir en si bonne forme. L'Alsace lui manquait. Ses marchés, son vin blanc. Ça faisait plus de 6 mois qu'il habitait seul. Il n'aspirait qu'à retrouver ses copains en bistrot. Sa vie d'avant. Et puis de savoir que d'autres avaient fait des affaires pendant son absence lui était insupportable. Mais il trouvait quand même le coin joli. L'été prochain, on reviendra. Pour les vacances. Tous les quatre. Il y a la rivière et puis de belles balades. Et ici, on te fout la paix. Puis il nous a dit qu'il allait rester encore un peu. Et il y a 15 jours, il a débarqué. Ma mère lui a sauté au cou. Et elle lui a montré la dizaine de chèques au montant astronomique qu'elle avait rangé dans le tiroir du buffet. Il n'y a pas prêté attention. Et il s'est fait un café. Pourquoi rentres-tu aujourd'hui ? Lui ai-je demandé. Mon père a mis un sucre dans sa tasse, puis il m'a souri. Je vous ai dit que j'aidais une brocanteuse là-bas. L'autre jour, elle est passée me voir. Elle voulait mon avis pour un tableau. En entrant dans sa boutique, j'ai vu tout un tas de bouquins dans un coin. J'ai vidé une bibliothèque, qu'elle m'a dit. En haut de la pile, j'ai reconnu mon livre. Alors tu vois, dimanche prochain, on me déballera pour 50 centimes à la brocante du village. C'était le signe que j'attendais.
Here I go again, wasting all my days away. It's a funny thing how some things never seem to change. 27 years of age, it's been like a satellite if your fool is gonna behave tonight, you're wrong. I'm drunk and I'm a mess, dressed up like it's Halloween, dancing along to Billie Jean, praying that somebody takes me home, praying that tonight I won't have to sleep alone with your answering phone. Here I go again, wasting all my money, babe. It's a funny thing how some things never seem to change. Sick of all this cheap cocaine, I ain't got no appetite. If you thought I was gonna behave tonight, you're wrong. I don't wanna be famous on the policy, dancing along to Beijing, praying that somebody takes me home, praying that tonight I won't have to sleep alone.